Chers collègues, quand venant d'Italie, il y a 3 ans, j'ai commencé mon enseignement ici. Parmi les éléments de réconfort, vous savez, toujours quand on laisse la patrie, il y a un moment d'hésitation. Parmi les éléments de réconfort, j'ai salué le renouveau des études sur l'humanisme juridique. Un essor, peut-être une vraie renaissance. Et donc, je suis vraiment heureux d'avoir pu participer et assister à un témoignage concret de ce renouveau. Parce qu'il ne faut jamais, je pense, oublier que lorsqu'il y a un colloque de qualité, on peut le dire, parce que je n'ai pas encore parlé, donc je peux le dire. Quand il y a un colloque de qualité, il y a toujours derrière un mouvement intellectuel, un renouveau d'études. Et donc, je pense que pour moi, ça a été vraiment un bonheur. Et donc, je veux, au nom d'Alexandra Gottelli et de Xavier Prévost, vous remercier vraiment de votre engagement. C'est quelque chose à laquelle nous tenons vraiment de vous le faire savoir. Votre engagement, le président Florent Garnier, que je remercie pour sa participation à ce colloque. Vous avez parlé des actes. Ils seront publiés dans la collection des colloques du Collège de France. Nous vous prions de remettre vos contributions avant le 1er octobre. Et donc, on pourra fêter vraiment, célébrer cette année Kuyasienne, Kuyasana. Il n'y aura pas de limite exagérée de signes pour vous dire, disons, pour vous donner des points de repère, à peu près 80 000 signes. Donc, ça va être ceux qui veulent développer leur contribution peuvent les faire. Le défi de ce colloque était de parler de Cujas sans parler de lui. Et les sujets étaient sa postérité sous un angle double, la réception de sa pensée, d'une part, et le retentissement de sa figure. Une chose me paraît claire, acquise du colloque. Comme toujours, les réponses varient en fonction de sources. Ou pour le dire autrement, l'image de Cujas est plurielle. Et cette pluralité, cette image qui est restituée différemment, elle est en fonction des milieux qu'on interroge. Les milieux sont disons, un lien avec les sources qu'on interroge. La statuaire publique, les médailles de commémoration ne représentent pas le même milieu que la littérature, et la littérature elle-même offre des images très différentes si on interroge par exemple la littérature juridique ou le marquis de Sade. Mais aussi les œuvres de Cujas offrent une variété interne assez importante. Donc il y a nécessairement une pluralité d'images de Cujas, parce que lui-même, il incorpore je voudrais dire, plusieurs personnalités scientifiques en lui. à lui-même. Donc, c'est une question pas seulement historiographique, mais c'est dans l'objet historiographique lui-même, l'objet historique lui-même, cette pluralité inscrite. Et bien entendu, il y a aussi d'autres facteurs de démultiplication de l'image de Cujas. Il y a les facteurs géographiques, les facteurs chronologiques. L'image de Cujas n'est pas la même à Toulouse ou à Paris. Elle n'est pas la même au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle et peut-être pas la même au XXIe siècle. Les facteurs géographiques, bien plus importants que seulement deux villes, on a entendu la, disons, l'étendue du retentissement de Cujas en France, en Italie, en Espagne, en Écosse. Et en plus, les images sont aussi multipliées par les arrière-plans, c'est-à-dire la réception du droit romain et aussi en fonction des méthodes que chaque époque a privilégiées par rapport aux approches aux sources juridiques. Donc, pour essayer de sortir de cette pluralité qui risque de devenir un peu insaisissable, je me suis dit que peut-être nous aurions pu, c'est l'un des mérites des colloques bien réussis, de faire penser même sur l'approche qu'on a adoptée, peut-être on aurait pu choisir une organisation binaire. Donc je vous prie d'excuser la simplification. Alors, je pense que effectivement, il faut distinguer selon deux perspectives, une réception intrasystémique et une mémoire extrasystémique. Donc, une réception, le Cujas qui ressort de sa propre discipline. Et le Cujas, qu'on a aussi appelé, on a parlé du côté patrimonial. Et pour le dire rhétoriquement, il y a le Cujas utilisé en fonction argumentative, il y a le Cujas dont on parle sous l'angle épidectique. Et je pense que cette distinction peut-être aider donner des points de repère dans l'interprétation des documents. Donc je commence très rapidement pour parler de ce champ, le champ intrasystémique, le Cujas des juristes. Alors au centre, nous avons la notion d'autorité. J'employerai le nom latin auctoritas. Bien entendu, c'est très compliqué de la définir et c'est ça a été le mérite de Corinne Leveloux-Texera de nous présenter cette notion. Je pense que, comme je l'ai dit, il y a ici vraiment tout l'enracinement de la pensée de Cujas dans le droit romain. C'est-à-dire que la position d'un juriste dans le système juridique est fortement déterminée par le type de source que Cujas, par exemple, utilisait et donc par le rôle que le juriste romain exerçait dans leur système. Je répète une référence assez, je pense, marquante, c'est la loi des citations. Alors, la loi des citations qui énumère cinq juristes qui font autorité, contient déjà beaucoup de questions disons, des schémas que nous avons utilisés dans ces deux journées pour définir les rôles des CUJAS. Bien entendu, il ne s'agit pas de prétendre que la loi des citations ait une influence quelconque sur la pratique du droit ou sur le classement des sources. C'est seulement un modèle intellectuel qui continue de influencer et de construire la figure de référence. Pourquoi est-ce que les juristes font autorité? Pourquoi ils sont des auteurs? Si on part de ce constat, on peut bien entendu suivre les inflexions que cette notion d'autorité a eu au fil du temps, c'est-à-dire qu'il est évident que l'autorité de CUJAS change en fonction disons, du rôle de la doctrine et notamment de certaines de certains genres littéraires, du cadre législatif qui les entoure. Donc, il est évident que ce n'est pas une notion figée. C'est le point de départ de la centralité des jurisconsultes dans le système juridique qui, en fonction de ceux qui l'entourent, change. Mais quand même, j'insiste sur le modèle. Le modèle, c'est le même modèle que CUJAS retrouvait dans les sources qu'il étudiait. Et notamment, vous savez que CUJAS était surtout l'éditeur du code théodosien. Et donc, c'est justement dans les codes théodosiens qu'on retrouve la loi des citations. Après, si on poursuit... si on reste, et donc pour terminer là-dessus, un bon nombre de communications, de présentations se situent dans ce champ, c'est-à-dire que ce dont nous a parlé Diego Quaglioni, John Cairns, Rafael Ramis Barceló, Laurence Winkel, Anne Rousselet-Pimon, Pierre Bonin, d'une façon, on va revenir peut-être sur la communication de Pierre Bonin, parce qu'elle montre qu'il y a des différences, même dans le champ juridique. Ce type, et bien entendu, les deux dernières présentations de Géraldine Casals et d'Anne-Sophie Chambost insistent sur ce champ. Comment est-ce qu'on réactive les opinions de CUJAS dans le champ juridique? Et cela à partir de cette image du juriste qui fait autorité. Mais dans le champ juridique lui-même, dans le digeste lui-même, il y a un autre modèle, celui des Pomponius. Alors, le modèle des Pomponius est un modèle biographique. Bien entendu, il y a les deux dans Pomponius, parce que Pomponius, il dit, à un moment donné, au paragraphe 10, il dit le droit ne subsiste pas s'il n'y a pas de jurisconsulte que, au quotidien, le prononce, l'élabore. Donc, il y a, bien entendu, cette centralité de l'autorité des jurisconsultes, mais il y a aussi l'approche biographique. Et ça... commence à nous faire basculer vers l'autre champ, le champ épidéctique. Alors, mais toujours avec ce modèle romain qui constitue le point de repère des juristes, notamment. Il y a un point que peut-être nous n'avons pas assez développé dans nos communication, l'image de CUJAS passe aussi par son auto-représentation. Ce n'est pas seulement une représentation par autrui externe, mais c'est aussi son autoreprésentation. Je pense, bien entendu, en premier lieu, à l'Operazione Docendi Iuris. C'est une autoreprésentation, mais aussi dans tous les prologues de Cujas, il y a vraiment une conscience de soi-même qui a bien influencé ceux qui ont essayé de le décrire. Et dans ce même champ des juristes, dans cette lignée de Pomponius à Cujas lui-même, on arrive à des biographies. Alors, nous avons, à partir de Papier Masson, nous avons des essais biographiques sur Cujas, qui sont à la fois dans le champ de l'autorité et de l'argumentation, parce que bien entendu, rehausser du point de vue biographique la figure d'un jurisconsulte lui donne plus d'autorité pour ses opinions dans le champ de l'argumentation, mais ça devient aussi un dépôt pour la deuxième démarche, pour le deuxième champ, celui de épidectique, c'est-à-dire le champ qu'on a bien aussi défini comme celui de la patrimonialisation. Et c'est un champ notamment extra-systémique, parce que c'est la réception hors du droit, hors de l'argumentation juridique dont nous occupons lorsqu'on entre dans ce champ. Alors là, on pourrait dire beaucoup de choses qui ont été très bien soulignées. J'insiste sur les faits que la construction de la figure de Cujas est surtout une démarche narrative. C'est surtout l'exploitation d'une topique. Ce n'est pas par hasard que j'ai utilisé un mot rhétorique, de la rhétorique, parce que c'est typiquement dans la rhétorique épidictique qu'on trouve un ensemble de lieux communs, de points de repère pour décrire une figure de façon positive. Alors, on les a rappelés, mais il faut le redire dans ce cadre, les points qui reviennent incessamment, le fait qu'on a beaucoup parlé du fait s'il était ou pas autodidacte, mais c'est un topos, c'est-à-dire que quelqu'un qui est un autodidacte a plus de mérite. Ou s'il est autodidacte parce qu'il ne provient pas d'une famille fortunée, donc il a un double mérite. Parfois, il vient d'une famille fortunée, mais son père ne veut pas qu'il emprunte un certain chemin, mais il est autodidacte. Dans ce cas, il y a le fait de son origine sociale, pas tellement, disons, anoblissante, mais qui est anoblie par son effort personnel. Donc, vous voyez, il y a là des éléments d'une narration. Et donc, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il ne faut jamais, je permets de le dire, tomber dans le même piège. C'est-à-dire que lorsque nous étudions d'un point de vue historiographique Cujas, il ne faut pas trop insister sur ces lieux communs. Ils ne sont pas vraiment très importants. Ils appartiennent plutôt à une narration qui n'apporte pas grand-chose. Même chose, les rivalités, c'est typiquement un élément narratif qu'on peut exploiter. La formation d'une école, il était autodidacte, mais il forme une école. Vous voyez, l'idée, c'est une origine, parce que s'il était autodidacte, mais il forme une école, ça veut dire qu'il était, disons, à l'origine de toute une lignée. Et l'idée des écoles, c'est l'idée de Pomponius, bien entendu. On a évoqué beaucoup de qualités très marquantes. Par exemple, le fait que de sa clarté, sa brièveté, la pureté. Alors, vous voyez, il s'agit de qualités qui sont bien placées pour décrire pas seulement disons une doctrine, mais surtout pour bâtir une figure, pour dessiner un caractère. Et je pense la même chose pour la question très souvent évoquée de son prétendu nicodémisme. Donc ça ne concerne pas l'édit du prêteur. La religion ne concerne pas l'édit du prêteur. Alors, je pense que là, il y a, encore une fois, un outil pour souligner le fait qu'il était surtout un juriste. Alors, c'était vraiment l'idée qu'il ne répondait pas d'une autre façon. Je ne veux pas... Bon, il y aurait eu plusieurs façons de se soustraire à cette question, mais il a répondu « un juriste ». Et donc, je pense que c'est aussi, on insiste sur cet épisode, parce que, au fond, ça ne fait que renforcer, de replacer Cujas dans le champ juridique. Et donc, je pense que là, également, peut-être, il ne vaut pas la peine d'insister trop sur ces côtés. Alors, bien entendu, il y a une sorte, vous l'avez vu, du centre, on s'éloigne un peu. On s'éloigne parce que il y a dans le champ épidétique, il y a une description qui est d'abord centrée sur la figure elle-même de Cujas, donc sur son individualité, et normalement, il s'agit d'une réponse assez, disons, d'un portrait assez favorable. Donc, lorsqu'on on assume comme objet vraiment la personnalité individuelle de Cujas, il y a surtout des réponses qui sont positives. C'est Pierre Bonin qui nous a montré un peu le trait d'union entre les deux champs. Ce sont justement les brèves biographies qui sont en même temps, elles sont brèves, mais elles sont très représentatives, justement, parce qu'elles sont un effort de synthèse. Peut-être quelque chose sur laquelle nous aurions dû insister davantage, c'est un examen des biographies de Cujas. Donc on a un peu laissé de côté une analyse fouillée des biographies de Cujas. Alors, lorsqu'on commence à entrer dans ce champ, si on reste sur l'individualité, le jugement est normalement favorable, sauf qu'il y ait une intersection avec le champ de l'argumentation. Parce que, bien entendu, lorsqu'on parle de Cujas, mais on veut ne pas le suivre dans son argument, bien entendu, le jugement devient un peu moins favorable. Mais normalement, c'est un jugement favorable. Ce qui est bien évidemment aussi le cas lorsque nous avons une célébration publique. Là également, vous voyez que interroger les monuments publics relève vraiment d'un univers complètement différent de la réception. Donc, c'est pas vraiment la même chose. Parler du Cujas honoré par une statue, c'est vraiment autre chose que parler du Cujas en tant que porteur d'une opinion dont les autres juristes s'emparent. Et bien entendu, dans le cadre de l'exploitation publique dont nous avons entendu de très, très, très beaux interventions de Madame Lalouette et de Florent Garnier. Il est évident que dans ce cas, il ne s'agit que d'une exploitation qui n'a rien à voir avec cette réactivation. Mais on commence à voir que c'est vraiment une réduction de Cujas, un pur symbole. C'est-à-dire, il n'y a pas derrière cette utilisation une véritable image de Cujas. Et je pense aussi qu'il faut faire une réflexion qui a déjà, je pense, été faite par Madame Lalouette, c'est-à-dire que il y a très peu de statues publiques, pas seulement de Cujas. Par ailleurs, il y a plus de statues dans des endroits qui ont une connotation juridique que, disons, à Louvert. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les juristes ne jouissent pas d'une véritable, je ne dirais pas de bonne presse, mais ils n'ont pas un public. Ils n'ont pas un public hors de... C'est pas comme dans ce champ. On aurait dû faire une représentation énorme de ces côtés et vraiment très petit de ces côtés pour rendre l'idée du fait que les juristes n'ont pas un véritable retentissement hors de leur champ. Et pour poursuivre et pour terminer cette explication très schématique, il est bien évident, et l'intervention brillante de Stéphane Jongé nous l'a montré, que quand, pas seulement on sort du champ juridique, on entre dans le champ biographique, mais on sort du champ, célébratif, et on entre dans un champ, plus ouvert, l'individualité s'efface presque complètement, et ce qui ressort, ce n'est pas Cujas en tant que tel, mais ce sont les juristes. Cujas ne devient que l'avatar de la catégorie des juristes, peut-être de nous-mêmes. Et je le dis parce que vous voyez que, normalement, on nous l'a dit, c'est plutôt dans ce coin qu'on retrouve des évaluations négatives de Cujas. Alors, j'espère vous avoir donné une sorte de résumé schématique de nos travaux et bien entendu peut-être une possible clé de lecture des documents. Je termine pour souligner les manques. J'en ai déjà souligné quelques-unes. Je pense qu'on aurait pu insister davantage sur la présence de Cujas dans l'enseignement, c'est-à-dire, je pense que peut-être là, il y a encore un champ à travailler. Quand je dis il y a des manques, c'est parce que souvent, ce manque a été évoqué par certains des contributions, parce qu'on a fait référence à la nécessité d'étudier plus largement certains sujets qui n'ont pas été développés davantage. Donc ce n'est pas un reproche, mais c'est ici également une idée qui est venue en vous écoutant. C'est justement la question de la circulation des livres de Cujas. Donc je pense qu'effectivement, un recensement de la présence, et chronologiquement, bien entendu, disons, articulé de la présence de Cujas dans les bibliothèques européennes serait nécessaire, bien entendu, pour aller encore plus loin. Les notes de lecture, mais on comprend très bien, c'est je pense, le sujet d'un RC, c'est pas le sujet d'un colloque. Je termine sur quelques idées très générales sur un colloque de ce type. Qu'est-ce que j'ai appris en général sur notre méthode? Donc, je pense que la question la plus importante est: est-ce que une approche biographique apporte quelque chose à l'histoire du droit? Alors, c'était une approche biographique jusqu'à un certain point, mais je pense que c'est quand même une lecture de l'histoire de la culture juridique du point de vue d'un individu, même si on l'a pris sous l'angle de la réception. Donc c'est quand même une approche biographique. Et je pense que c'est une approche assez intéressant. Par exemple, en écoutant Valérie Hieré, ma prononciation de vos noms est toujours un peu douteuse, mais vous reconnaissez plutôt que dans les noms, dans les idées que j'évoque. Il y a une réception aussi tacite de Cujas. Et c'est bien plus difficile à repérer. Donc, je pense que l'approche biographique donne quand même la possibilité de poursuivre des fils, des continuités, d'avoir toujours un point de repère, plutôt que s'engager dans une réception anonyme, par exemple, de l'utilisation des stemmata pour la présentation des notions juridiques, qui, bien entendu, relève aussi de la contribution de Cujas, mais qui n'est pas toujours attribuée à Cujas. Donc, vous voyez que l'approche biographique donne quand même la possibilité de mieux façonner son objet historique. Une autre question, c'est, je pense, ça remet en cause, un colloque comme celui-ci remet en cause la périodisation des époques qu'on utilise pour cloisonner et décrire l'histoire de la pensée juridique. Donc, je pense que c'est un acquis et il faudra, bien entendu, aller dans cette direction. C'est beaucoup plus complexe. On le voit par le prisme de la réception d'un seul auteur. Donc, je pense que c'est ça, cette approche. C'est avoir un prisme pour comprendre une histoire bien plus large que la personnalité elle-même. Dernier point, qu'est-ce que réflexivité, qu'est-ce que Cujas dit de nous-mêmes? Je pense que nous avons quand même, je pense qu'on pourrait mesurer et décrire notre approche à l'histoire du droit en mesurant notre sympathie ou antipathie pour Cujas. C'est-à-dire que Cujas est emblématique de l'intérêt que les historiens du droit portent sur l'histoire du droit. Parce que, évidemment, Cujas est représenté comme quelqu'un qui a recontextualisé le droit romain. Donc, il est l'emblème, en certains sens, des historiens du droit. Et donc, je pense que aussi le fait d'avoir choisi Cujas nous amène à réfléchir sur nous-mêmes, sur les rôles que nous jouons dans les facultés des droits, et sur la possibilité, je l'évoquais, d'utiliser, non pas Cujas, bien entendu, mais d'utiliser l'histoire du droit en tant que patrimoine à la fois de légitimation des études juridiques, de généalogie des études juridiques, mais aussi de réactivation de catégories et de raisonnements. Et donc, je pense que pour un colloque de deux journées, même si nous avons bien travaillé, c'était beaucoup. Merci.